Salut, ici Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias sur RFI. Dernière émission cette semaine de notre série consacrée au Festival international de photojournalisme Visa pour l'image. Cette année, nous avons tenté de couvrir cette rencontre d'une manière un peu différente des éditions précédentes. Nous avons souhaité vous raconter des histoires, des parcours de vie, des combats, comme celui de Marie-Yvonne Lepage, mère de la photographe Camille Lepage.
Camille, si c'est vraiment ton engagement, si tu as vraiment ça au fond de tes tripes, cette envie de témoigner, d'aller sur le terrain, d'aller voir ce qui se passe et de rapporter ça au monde, eh bien vas-y, et je serai là pour t'accompagner. C'est ce que j'ai fait.
Vous pouvez réentendre ces émissions en vous abonnant au podcast de l'Atelier des médias. Je vous suggère d'ailleurs d'ajouter à votre téléphone intelligent, si vous en possédez un, une application dédiée à la balado-diffusion au podcast. Aujourd'hui, nous vous proposons une autre histoire, celle d'un des photographes exposés cette année à Visa. Un homme d'une quarantaine d'années que rien ne destinait à la photographie.
Je suis Farhat Boudin. Je suis né en Kabylie, en Algérie plus exactement. En 2000, quand j'ai quitté l'Algérie, c'était dans l'idée de réaliser réellement un film pour ma grand-mère. Elle est toute seule à la maison, il n'y a que la télé qui est sa compagnonne. Il n'y a que deux langues en Algérie, il y a le français, il y a l'arabe. Elle est berbère, elle ne comprenait aucun mot. Ouais, elle m'a fait de la peine de voir une personne comme ça. Elle a combattu pendant la révolution pour qu'on soit libre. Et finalement, j'ai vu, malheureusement, à son âge, elle n'a même pas le droit de voir une télé avec sa langue maternelle. C'était un peu... Donc l'idée, c'est venu comme ça. Je rêve aussi, je suis un peu rêveur.
J'ai rencontré Ferhat Bouda devant l'entrée de l'exposition qu'il propose cette année à Perpignan. Comme souvent, quand j'ai rendez-vous avec une personne que je ne connais pas, j'avais préalablement cherché une photo le représentant pour le reconnaître. Arrivé une quinzaine de minutes avant l'heure convenue, j'espérais prendre un peu de temps pour revoir ces images de familles berbères marocaines du Haut Atlas. Son travail, extrêmement sensible, en noir et blanc, montre des vies simples, sans aucun confort, au cœur d'une montagne décharnée. Une poésie mélancolique se dégage de ces clichés qui, il faut l'admettre, entre plus volontiers dans la catégorie photographie d'art que dans celle plus informative et moins onirique du photojournalisme. Arrivé en avance, donc, j'aperçois et reconnais le visage de Ferhat. Je me dirige vers lui et l'aborde. Il me sourit et me propose d'aller nous asseoir à la terrasse d'un café pour faire connaissance. Séduit par son humilité, je l'écoute et l'imagine en l'an 2000 quand il arrive à Paris, porté par l'idée, par le rêve de faire un film en langue berbère pour sa grand-mère restée en Kabylie.
L'idée, c'était celle-là. Mais aussi, je suis un rêveur, donc je voulais venir en Europe, je voulais tenter ma chance en Europe parce que je fais partie des générations du terrorisme ou bien de la dessinée noire en Algérie. Mon adolescence, c'était vraiment la dessinée rouge, pas que rouge et noir, hein. C'était horrible. Je connaissais pas le monde, on pouvait pas voyager, donc voilà, j'ai quitté l'Algérie à peu près pour ça. Et j'arrive à Paris en 2000, je cherche des écoles de cinéma, elles sont très chères, je me suis mis au travail. Il faut que je gagne l'argent pour que je puisse payer ces écoles. Je travaillais dans le bâtiment. Un jour, on devait nettoyer un appartement. Notre chef nous a dit, donc, tout ce qui est dans l'appart, poubelle. Donc voilà, on prenait des choses, on jette, bref, on nettoie. Il y a un appareil qui traînait dans la boue. Un appareil photo très ancien, voilà. Et je le prends, je nettoie, je dis, c'est pas une mauvaise idée de commencer petit. Parce que je connaissais pas, j'avais un rêve, mais je viens dans une culture aussi, on n'avait pas ça comme culture, ni cinéma, ni. Voilà, il y avait quand même quelques Kabyles ou Berbères qui ont fait le cinéma, peut-être de la photo. Mais je connaissais pas ça comme petit gamin, je connaissais pas cette culture. J'ai mis le film, j'ai profité pendant cette période, je partais tout le temps au centre Pompidou, quand j'ai le temps, donc je suis très curieux de voir, de lire sur le cinéma, après sur la photographie, la technique surtout, hein, le reste je ne m'intéressais pas. Donc je commençais à mettre un film, à demander les gens sans hésitation, est-ce que ça c'est bien, c'est comme ça, pourquoi ça.
C'est-à-dire à mettre une pellicule dans l'appareil, quoi, comment on fait?
Voilà, j'ai mis la pellicule dans l'appareil et je commence à faire des photos dans l'idée de développer mon langage visuel en fait. Voilà, à peu près c'était ça qui tournait dans ma tête. Donc voilà à peu près comment j'ai découvert la photographie. Une année plus tard, je rencontre des gens parce que je photographie tout, je m'intéresse à tout. Manif à Paris, surtout, c'est devenu un sport. Les manifestations, donc tout le temps, presque chaque week-end, il y a une manif, les fleurs. Je ne sais pas quoi photographier, mais je photographie tout. Voilà.
Un an après son arrivée à Paris, le jeune Ferhat commence donc à s'intéresser à la photo. Muni de son Nikon FM ramassé dans les déblais d'un appartement abandonné, il sillonne la ville pour former son regard et développer sa technique. Il garde bien sûr à l'esprit son projet initial, celui de faire un film pour sa grand-mère. Et afin de subvenir à ses besoins, Ferhat travaille dans le bâtiment et sur des marchés, bien que son visa de séjour ne lui donne pas le droit d'exercer d'activité professionnelle. Cette situation inconfortable l'incite à envisager un retour en Algérie.
Tout ce que je faisais, c'était en noir, le problème. Et je ne voulais pas vivre ça, parce que c'est très dur. J'ai laissé ma famille, je suis l'aîné de la famille. Et c'est trop dur. C'était trop dur de laisser sa famille. C'était trop dur d'être loin de sa famille, pour moi, hein, au moins. Et j'ai décidé de travailler encore un petit peu. Un jour, sûrement, je ne vais pas rester dans cette situation. En fait, c'était ça. Et quand par hasard, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a conseillé une école de photo. Il m'a dit, Ferhat, il y a l'école qui s'appelle EFET, ça peut t'intéresser. Parce qu'il m'a vu que j'ai la volonté et tout, mais j'en ai aucune notion, en fait. Il n'y a que la volonté, c'est trop peu. Je me suis dit pourquoi pas, donc je me suis inscrit, mais à temps partiel, une journée par semaine. Et cette période-là, quand j'ai trouvé la photo et tout, c'était quand j'ai découvert quand j'ai trouvé cet appareil, ça fait à peu près une année et demie, donc je me suis inscrit une fois par semaine. Et pendant cette période-là, je découvre la photographie en noir et blanc. Certes, il y a des étudiants qui font ça et tout, mais moi je croyais que je suis le seul photographe au monde qui existe. Parce que j'en ai aucune notion sur la photo, aucune culture photographique, c'est une catastrophe. Mais je faisais quand même de la photographie, voilà. Donc je découvre le noir et blanc. Après je m'intéressais vraiment moins à la prise de vue. J'essaie de développer cet langage visuel, mais quand je dis la prise de vue, je m'intéresse à la prise de vue, mais plutôt au sujet. Je m'en fous quel sujet. Le plus important, c'est de faire la photo, je termine le film et je le développe. Voilà, donc ce processus dans la chambre noire, pour moi, c'était une découverte incroyable. Donc voilà, j'ai commencé comme ça.
Après un an d'études à temps partiel, Ferhat est désormais convaincu qu'il est temps de quitter la France et de retourner en Algérie. Pour ce faire, il accumule du matériel photographique afin de rentrer avec un outil de travail potentiel.
J'en pouvais plus. À 3 ans en France, je me suis dit c'est bon, c'est le moment de rentrer chez soi. Donc je travaille toujours, j'ai acheté quelques appareils, je me suis dit je rentre chez moi et c'est bon, je ne peux pas rester dans cette situation irrégulière. Il y a ma famille qui m'attend, je tente ma chance en Algérie comme tous les Algériens. Un jour, j'avais une copine, j'ai lui dit voilà, moi je suis partant en Algérie, elle est allemande, elle m'a dit mais moi je repars chez moi, mais on est ensemble. Voilà. Donc elle vient une fois par mois, une fois, deux fois par mois, parfois.
En Algérie ?
Non, en Paris. C'était à Paris tout ça. Hein. Et un jour, elle est venue. On a fait un petit tour. J'avais un petit studio dans le 10e arrondissement. On a fait un petit tour comme ça. Elle arrive, c'était un vendredi. On a fait un petit tour. Elle commence à pleuvoir. 3 quarts d'heure plus tard, on rentre à la maison. ils ont cambriolé tout ce que j'ai acheté. Et là, c'était un choc total pour moi, parce que c'était très dur de ramasser tout ça. En fait, il y avait des appareils, j'avais un agrandisseur, donc tout ça, je l'ai acheté pour du moment que je savais, je prépare mon voyage en Algérie, donc je voulais repartir. Donc il y avait tout ça, il y avait même un appareil numérique pendant cette période. J'ai acheté beaucoup de matériel photo, ce que je peux prendre en fait à la douane. Et pour moi, c'était ma richesse. Voilà, c'est pas des millions, oui, mais pendant la période-là, pour moi, c'était ma richesse. Et j'étais choqué, incroyable.
Qu'est-ce que tu comptais faire, en fait? Tu voulais retourner en Algérie pour devenir photographe?
Je l'ai pensé, oui. Je voulais repartir en Algérie pour devenir photographe. Peut-être, en fait, cette idée m'a traversé. Après, je ne sais pas. Et j'avais même une... Je ne sais pas, je suis des choses vraiment par instinct, hein, et j'avais une sensation qu'on a besoin. Je me suis dit ça dans ma tête pendant cette période, je pouvais avoir ma place dans la presse algérienne. C'était ça qui a traversé. Je ne connaissais pas très très bien, je n'avais pas réellement une grande culture pendant cette période dans la photo. Mais c'est à peu près ça, quand je t'avais dit, je pensais que je suis le seul photographe qui existe quand j'étais dans ce labo. Je croyais que, pourtant, il y a d'autres étudiants et tout, mais je me considérais, c'est moi qui a découvert la photographie. Donc voilà, j'avais cette idée, pourquoi pas en Algérie, parce que j'ai jamais fait réellement de grandes études. Et donc ça, voilà, après, ce que j'ai laissé en Kabylie, je travaillais dans les champs, ou bien dans le bâtiment, c'est pareil, ou bien, voilà, donc tout ça, je peux le trouver, en fait, je l'ai pas perdu. Donc c'était ça mon plan, mais comme ils m'ont cambriolé, c'était une catastrophe.
La vie de Ferhat Bouda a donc été bouleversée par deux événements antinomiques. D'abord, la découverte d'un appareil photographique abandonné dans un appartement parisien. Ensuite, le vol de tout son matériel photographique entreposé, lui aussi, dans un appartement parisien. La trouvaille le rend photographe, le cambriolage l'empêche de retourner dans son pays la tête haute et l'incite à rester en Europe. Il épouse alors sa compagne allemande, le couple tente de vivre quelque temps à Paris, puis décide de s'installer à Francfort, en Allemagne, où au moins un des deux époux est chez lui.
Donc je suis arrivé en Allemagne, je fais des photos, la photographie comme tout le monde, amateur, j'en ai aucun projet précis. Une fois, je vois le... C'est pas dans un journal, parce que je comprenais pas. C'était dans un journal, mais c'était ma femme qui m'a expliqué qu'il y a un problème avec les punks. Ils sont toujours dans une place, à Francfort. Et il y a la police municipale veulent les pourchasser ou les chasser dans cette place. Je dis, mais je suis curieux de savoir c'est qui ces punks. Donc c'est à peu près le premier petit projet que j'ai fait. Je suis rentré chez eux, je parlais aucun mot en allemand. Des signes, un peu d'anglais, quelques mots en fait, à l'arrache. Et voilà, donc j'ai fait ça, mais...
T'as fait quoi en fait? T'es allé photographier les punks?
Ouais, j'ai photographié des punks avec un boîtier. Le seul boîtier qui est resté l'ont pas volé à Paris, c'était celui que j'ai trouvé, parce qu'il est tout le temps avec moi. Elle est super ancienne. Elle avait d'ailleurs mon âge, je crois. Elle est 76, 75. Et voilà, donc j'ai fait, quand je dis photographier, c'est pas... Bon, j'ai fait quelques photos, quelques images, quelques clichés avec eux. Après, on est devenus même des amis. Jusqu'aujourd'hui, je les photographie de temps en temps. Donc c'est la première fois que je fais des choses, mais j'ai pas décidé. Au début, je vais faire un projet. C'est le fait que j'ai entendu dans un journal, ou bien elle m'a expliqué, je dis tiens, je suis curieux de les découvrir, mais d'être là-bas sans parler la langue, sans travail encore, et au moins t'as un appareil, c'est à peu près ça. Mais malgré j'ai fait ça, l'idée du film que je voulais, elle est tout le temps dans ma tête pour ma grand-mère. Donc j'ai rencontré un réalisateur allemand, il s'appelle Ferdinand Barth, qui a déjà produit plusieurs courts-métrages et un long-métrage pendant cette période. On a discuté, on a parlé, donc on est revenu à Paris pour faire On a fait tout un scénario, tout le truc, et on est revenu une, deux années plus tard, en fait en 2006-2007, exactement, je ne me souviens pas. On est revenu à Paris pour voir, pour faire les repérages, pour... voilà, donc on a tout préparé, le scénario est prêt.
Pour faire un film pour ta grand-mère.
Voilà, pour faire un film comme je, bon, comme je l'ai souhaité, elle m'a beaucoup aidé. Parce que c'est lui qui... Bon, c'est une fiction, bien sûr.
En langue berbère, en amazigh.
Voilà, c'est une fiction en langue amazigh. Mais déjà, cette période, il y a eu... le temps que j'ai eu cette idée de faire le film pour ma grand-mère, ou bien la période où j'ai été militant dans la langue berbère, il y a eu... Déjà, ils ont créé une chaîne berbère, en fait. En France, il y a des Kabyles qui ont créé une chaîne berbère. Donc, il existe. Donc, ils commencent à voir et tout. Mais quand même, ça reste mon objectif. Donc, on a essayé. Mais on avait beaucoup de difficultés d'autorisation, l'argent pour tout ça. Donc, on n'a pas trouvé le soutien. Et je continue dans la photographie. Mais sans avoir une idée, projet, quoi que ce soit. Et je partais surtout, je repartais parce qu'après j'avais les papiers, je repars chez moi, donc je photographie aussi chez moi. Mais toujours comme un touriste.
Comme un amateur.
Un amateur, voilà, comme un amateur. En 2008, j'ai eu un ordi. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai eu un ordi. Et je commence à voir parce que je travaillais en fil avec les pellicules et le numérique en même temps, donc tout ce que j'ai fait en numérique, je le vois. Et je commence aussi à m'intéresser beaucoup plus à la photographie parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques workshops à Francfort.
Des ateliers, quoi.
Voilà, j'ai eu l'occasion de faire quelques ateliers à Francfort. Donc, de plus en plus, je découvre la photographie, la culture, parfois la philosophie de la photo, parfois les photographes, les expositions. Et je rentre de plus en plus dedans. C'était une période où j'ai été amateur, je travaille, en fait je fais des photos, soit dans les voyages, soit à Francfort, j'essaie de photographier chaque jour en contact avec la photographie. Même si j'ai rien à faire, je fais la photographie de la rue. Et quand j'ai un blocage, quand j'ai un problème, à Francfort nous avions l'équivalent de la MEP, la Maison Européenne de la Photo à Paris, qui organise ces workshops, des formations d'un week-end. Ils invitent un photographe pour un week-end. Donc, moi déjà, je commence à m'intéresser à la photo, au photographe et tout. Et à partir de là, dès que j'ai un blocage, je vois à peu près le photographe qui est compatible à mon poids, ou bien qui peut m'aider à résoudre ce problème. Par exemple, pour rapprocher des gens... je rapproche des gens, j'en ai aucun problème. Mais pendant une manifestation, par exemple, avec les punks, c'était ça. Mais de rentrer chez quelqu'un, de taper à la porte, de lui dire de te photographier, c'est très dur. Donc j'ai choisi, par exemple, en 2008 d'ailleurs, Anders Petersen. Anders Petersen, quand j'ai vu son travail, voilà, il est dans l'intimité des gens, quoi. Et voilà, donc j'ai participé à son atelier à Francfort, et ça aide.
Donc, il t'a expliqué comment aborder les gens.
Voilà, il t'explique, bon, je peux le dire en deux mots peut-être, mais c'est un atelier d'un week-end, donc on entend aussi les problèmes des autres photographes, ou bien lui-même, ses problèmes, comment il est arrivé là. Mais en gros, c'est la confiance avec ces gens. Après, chacun sa personnalité, comment il arrive à avoir la confiance avec des gens, tout simplement. Donc, je commence comme ça. Donc, après, je me suis dit, tiens, et j'ai vu toutes les photos que je faisais pendant mes voyages chez ma famille et tout. Et je dis, oui, je vais faire quelque chose sur la Kabylie.
Nous marquons une courte pause dans l'atelier des médias. Restez avec nous et avec le photographe Ferhat Bouda. Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le photographe algérien et kabyle Ferhat Bouda. En 2000, il a quitté son pays natal avec un rêve, celui de réaliser un film dans la seule langue que pouvait comprendre sa grand-mère, le berbère. Ce rêve l'a conduit en Europe, d'abord en France, où la découverte d'un appareil photo l'oriente vers la photographie, puis en Allemagne, où il décide de parfaire sa formation dans cette discipline. À partir de 2005, Ferhat assiste à des workshops proposés par de grands noms de la photographie. Ces formations répondent à ses doutes, ses questionnements et l'amènent petit à petit à s'assumer en tant que photographe et à avoir aussi le courage de choisir le sujet, le projet qui l'intéresse réellement. Les berbères. Nous sommes en 2008, Ferhat a donc 32 ans. Il est encore jeune mais s'inquiète de ne pas avoir réellement commencé une carrière professionnelle.
Je voulais faire des choses, je voulais m'engager dans la photo, mais le problème, j'ai vu mon âge, c'est très dur. Mais c'est vrai, la décision, j'aurais pu la prendre facilement, parce que la plus dure décision que j'ai prise, c'était de quitter sa famille et son pays, à la base. C'est la plus dure.
Quand tu as quitté l'Algérie en 2000, quoi.
Voilà, quand j'ai quitté l'Algérie en 2000, c'était la plus dure. Mais quand même, celle-là, ça m'a...
C'était quoi la décision ? C'était de devenir vraiment photographe ?
La décision, c'est de devenir photographe. Parce que devenir photographe, nous avons aussi une responsabilité. Nous avons un poids lourd à supporter sur nos épaules et tout. Donc en 2008 aussi, parallèle, j'ai découvert la Mongolie. Je suis parti en Mongolie comme touriste et j'ai découvert une culture qui n'est pas loin de la mienne, mais qui est le lieu ou bien le pays, il est très très loin. Et 2 ans plus tard, je suis retourné en Mongolie. Donc j'ai fait un reportage, c'était mon premier que j'ai décidé d'être photographe. Je me souviens très bien, je reviens, je l'envoie à quelqu'un. Elle m'a fait une critique, elle m'a écrasé. Elle m'a écrasé, j'ai même pas osé de voir mon appareil. C'est une critique très violente. Je viens de commencer, c'est très dur. Parce que j'aurais bien aimé, bon, certes, il aurait pu me dire c'est de la merde, mais d'une manière, pourquoi, qu'est-ce qui manque? Et il a dit carrément, il n'est pas fait pour faire la photo. J'étais démoralisé. Après, j'ai essayé de retrouver un petit peu ma force. J'ai dit, je reprends, je dois reprendre, c'est ce que j'ai fait. Et quand par hasard, il y a un workshop, les masterclass, un atelier organisé par Magnum. Et je me suis inscrit chez Antoine d'Agata, parce que l'idée de ce projet des berbères est dans ma tête, mais je n'ai pas osé. J'ai pas osé parce que c'est ma famille, parce que c'est moi-même. Ça va être très très dur, je n'arrive pas. Et Antoine, pourquoi je me suis inscrit chez lui? Parce que je trouve qu'elle a cassé presque toutes les règles de l'art. Et surtout, elle a commencé aussi tard la photographie. Donc je me suis dit peut-être, je trouve au moins une petite issue, une clé, elle va m'aider, elle m'encourage, on verra. Ou bien elle va me dire, en fait... Chez Magnon, je sais qu'il va être sincère. Il ne va pas dire, ah, c'est beau, c'est bon, c'est... Voilà. C'est à peu près dans cette idée. Donc, je suis parti à Paris, j'ai fait ce masterclass. Elle m'a beaucoup encouragé. Et il m'a dit des choses très intéressantes parce qu'on a parlé sur tout. Il a vu ce que j'ai fait jusque-là. Même les photographies, là, quand j'ai commencé, la photo de la rue et tout, j'ai lui montré tout. Elle m'a dit, je me souviens un mot, si tu ne le fais pas, Ferhat, si tu ne fais pas ton projet, maintenant, tu seras toute ta vie malheureux. Ouais. Et ce qui était très touchant en lui, en fait, c'était quelqu'un qui est rentré dans mon cœur, il parlait à ma place. Et ça, j'ai senti ça, et je me suis dit, ok, donc je reviens, je me suis dit, c'est bon, à partir de maintenant... J'arrête mon travail, j'ai tout arrêté, tout mon travail, j'ai arrêté tout. Et j'ai commencé en Kabylie, j'ai commencé avec ma grand-mère après, j'ai commencé avec ma famille. Et quelques mois plus tard, ou une année à peu près après 2010, en 2011, ils m'ont invité de faire une expo en Algérie de cette Mongolie que le premier photographe m'a dit c'est une catastrophe. Donc je l'ai exposé dans un musée à Alger, le musée d'art moderne. Et j'ai invité ma grand-mère. Donc elle a adoré, je ne lui ai pas fait le film, mais j'ai fait la photo. Donc je l'ai invité et elle a aimé. Elle a aimé, après je commence aussi à découvrir, ou bien j'ai constaté aussi la photographie, aussi c'est une langue finalement. C'est une langue internationale. Elle a compris ce que j'ai fait. Et donc je lui ai expliqué juste bon, la géographie, il ne s'en rend pas compte, mais je lui ai dit à peu près c'est quoi comme culture. Elle l'a vu de toute façon dans les photos. Voilà. Donc, il y a eu la révolution en Afrique du Nord. Hein. Et je suis parti, j'ai quitté la première fois, en fait, j'ai travaillé la première fois hors de la Kabylie ou bien hors de l'Algérie, en Libye, aux côtés des rebelles libyens, juste avant la mort de Kadhafi. Donc, j'ai suivi ça. Après, c'était le nord du Mali. Aussi une rébellion aux côtés du MNLA, au nord du Mali avec les Touaregs. Les Touaregs sont berbères. Il y a le Maroc, il y a le Niger, il y a les derniers berbères en Égypte, à Siwa. Voilà, donc il y a aussi la Tunisie. Et c'est comme ça, après, je commence à avoir une certaine aussi confiance en moi. Il y avait beaucoup de gens, c'est malheureusement que je ne peux pas remercier, mais beaucoup de gens qui m'aident, qui me disent « vas-y, fonce, il faut le faire, il faut faire le projet ». En 2014, j'ai rencontré l'agence Vue. Ouais, je suis rentré, en fait en 2013 on s'est rencontrés, donc j'ai montré mon portfolio, mes photographies, j'ai montré, on a discuté sur mon projet, qu'ils trouvent intéressant. Mais j'avais pas assez de matière. Donc j'ai mis à peu près une année à travailler encore. C'était la période là, en nord du Mali, avec les Touaregs. En Algérie aussi, j'ai produit beaucoup plus. Et en 2014, j'ai intégré l'agence Vue. Et ce qui m'a beaucoup aidé à réaliser aussi ce projet. Parce que je commence à faire des petites commandes à travers l'agence. Hein. Et l'année dernière, donc j'ai continué. Je vois un pays, quand je n'ai pas produit assez de photos, quand je ne me suis pas trop convaincu de mon travail, il fallait que je reparte, je cherche cet argent, ou bien je travaille, je m'en fous. Mais depuis 2010, en fait, j'ai arrêté d'autres travaux que dans la photo. L'année dernière, on a postulé pour le prix Pierre et Alexandra Boulin. Le reportage, la photographie documentaire. Donc j'ai eu la chance de gagner cette bourse et ça m'a aidé à repartir en Maroc, en Niger et en Égypte. Cette année j'ai produit un petit peu Donc, c'est, on a exposé ici aussi, c'est, parce que quand on gagne ce prix, on le projette, il faut le projeter. En fait, on montre le résultat de la bourse. Donc, c'est à peu près le résultat de la bourse que je montre ici.
Vous écoutez l'atelier des médias RFI. Nous sommes cette semaine avec le photographe algérien et kabyle Ferhat Bouda. Il ne faut pas se méprendre. La carrière de ce jeune homme extrêmement modeste est exemplaire. En quelques années de pratique professionnelle, Ferhat s'est hissé au sommet de sa discipline avec un style qui lui est propre. Ses images sont des morceaux de rêve, sorte de souvenirs fugaces issus de ses fantasmes, de son amour pour la culture berbère et de sa nostalgie d'une enfance et d'un pays qu'il ne retrouvera jamais. Depuis qu'il a quitté la Kabylie en 2000, la langue berbère est devenue langue officielle au Maroc, d'abord en 2011 et en Algérie en 2016. Victoire symbolique pour un peuple disséminé dans 9 pays au moins.
Si je m'intéresse au berbère, j'essaie de repartir un tout petit peu dans mon adolescence. 1994, la Kabylie a boycotté l'école algérienne. Donc, on l'a boycotté. Il y a un mouvement qui est appelé pour le boycott scolaire. Donc, toute la Kabylie, hein, les primaires, le CEM, le lycée, les universités, tout l'enseignement, on l'a boycotté. On a revendiqué la langue berbère soit officielle et nationale en Algérie. Donc pendant une année, on n'a pas été à l'école. Et pendant cette année qu'on n'a pas réellement, on part à l'école, mais on fait autre chose. Ça veut dire qu'il y a des conférences sur la question berbère, mais on ne fait pas des cours. Voilà. On ne fait pas de cours. Donc il y a autre chose. Il y a d'autres choses qui se passent, culturelles, sportives, d'autres activités culturelles et sportives. Et à partir de là, je commence, pour moi peut-être c'est l'éveil, parce que je me rends compte, c'est clair, tu es là dans un village, tu parles avec ta famille, ta mère, tes parents, tous les villageois, à l'âge de 6 ans, tu rentres à l'école, tu trouves une langue carrément qui n'est pas la tienne.
L'arabe, qui le est français.
L'arabe, voilà, qui est l'arabe, quelques années plus tard c'est le français. C'est automatiquement. Et on ne se rend pas compte autant qu'enfant. On a pensé, oui, c'est le savoir, c'est comme ça. Le savoir, il est comme ça. Tu rentres à l'école pour connaître, pour devenir ingénieur, médecin. Et c'est comme ça, tout simplement. Mais il y a des gens qui sont dans le mouvement, qui sont très actifs, qui ont eu cette conscience. Donc voilà, en 2014, en pleine adolescence, je me suis rendu compte, finalement, il y a un problème en Algérie. Il y a deux peuples. Pourquoi ils sont différents? Pourquoi un il a le droit d'étudier avec sa langue maternelle, il a le droit de se défendre devant la justice avec sa langue maternelle. Ma grand-mère qui ne parle aucune autre langue que le berbère, s'il a un problème devant le juge et le père en justice, elle ne peut pas parler avec sa langue. Elle doit prendre un avocat s'il n'a pas d'argent, donc voilà, elle perd ses droits. Et c'est à partir de cela que ça commence. Je m'intéressais de plus en plus à l'histoire de l'Algérie, les Berbères, pourquoi, et ainsi de suite.
La grève générale en Kabylie, elle était très suivie ce matin, notamment à Tizi Ouzou, Bouira et Béjaïa, où dans cette ville, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues. Cette grève prend la relève de 2 semaines de boycott des écoles et des marchés. Et le mouvement est soutenu par l'ensemble des syndicats. Ghislaine Dupont a joint par téléphone Ould Ali Ladi, il est membre du bureau national du MCB et président du bureau régional à Tizi Ouzou.
C'est un combat qui est mené depuis déjà très longtemps. Depuis que notre histoire existe, on nous a relégués en second plan comme étant une demande secondaire par rapport à des priorités. Nous pensons qu'il n'y a pas de priorité parce que parallèlement, nous menons aussi un combat antiterroriste. Nous sommes convaincus que c'est aussi une façon de résister à toute forme fascisante ou exclusiviste dans notre pays.
Pendant ces périodes, on faisait le théâtre, on dessine, on chante des chorales. Donc je commence aussi à m'intéresser à la musique. à tous les moyens, mais je pense que c'est l'adolescence. C'est comme ça, on est adolescent, on veut découvrir peut-être tout. L'idée, c'est là, les berbères, je veux transmettre un message, je veux peut-être faire quelque chose. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on fait des choses. Mais je suis tout le temps attiré par ce genre de choses, c'est des choses plutôt artistiques, si on peut le dire. Jusqu'au moment où la photographie s'est installée en moi, ou bien j'ai décidé de faire la photographie, donc le projet était là. Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Il y a déjà le déni culturel que tu sens. Tu es dans un pays, mais tu es différent. Tu as les mêmes devoirs que tout le monde, mais tu n'as pas les mêmes droits que tout le monde. Il y a l'arbitraire aussi. Et je me demandais pourquoi il n'y a pas de raison de parler une langue, de naître comme berbère. Et là, je parle dans la région, en Afrique du Nord, hein, pas qu'en Algérie. Et pourquoi tu n'as pas le droit d'étudier ta langue? Pourquoi tu n'as pas le droit de travailler avec ta langue? Donc tout ça, au bout d'un moment, je me suis dit, je m'engage dans la photographie, je veux montrer ça. Je veux bien travailler sur ça, parce que c'est mon histoire, je dois commencer par mon histoire. Je veux bien me connaître déjà moi-même, je découvre d'autres berbères qui sont un peu partout dans le monde. Et à partir de là, peut-être un jour, je raconterai les histoires des autres. Mais aujourd'hui, je dois déjà connaître mon histoire à travers d'autres, je raconte moi-même. Et c'est ça en fait qui m'a poussé. C'est ce déni, c'est cet arbitraire, c'est cette injustice. Aussi.
Comment tu as décidé de le traiter, de montrer, de parler de la culture berbère à travers la photo?
J'ai commencé la première partie avec ma grand-mère. C'est plutôt... je le suis dans son quotidien, je fais ses portraits, voilà. C'était plus la nostalgie quand je suis en Europe, elle me manquait. Donc j'ai essayé au maximum de la photographier. Je sais que je l'ai perdu l'année dernière. Il y a une chose, il y a la mort, qui est la mort, c'est une séparation éternelle peut-être. Il y a l'exil qui est une autre mort aussi. Donc je fais partie de ces exilés. Et c'est ça qui est dur. Donc quand je repartais chez eux, je faisais ces photos, c'est plutôt ça. Je reviens avec un souvenir, je la vois, je regarde, je... Voilà, après, en tant que photographe, tu penses, j'ai jamais pensé à la publication de ma grand-mère. C'est ce qui est d'ailleurs intéressant pour moi dans la photo quand on commence par son histoire. J'ai jamais pensé à un magazine, est-ce qu'elle est belle la photo? Même une photo toute floue, aujourd'hui j'ai perdu ma mère, c'est parmi les plus belles photos quand je le vois. Toute floue, je vois rien, juste quelques traits comme ça qui me rappellent à elle ou bien à mon père aussi que j'ai perdu à l'âge de 14 ans quand je vois. Ce sont les meilleures photos pour moi. Et donc je pense que c'est ça qui m'a poussé. Je n'ai pas pensé de faire une histoire, une belle histoire, de belles photos, mais cette distance que j'ai avec ma famille, ça m'a poussé. Et après voilà, je découvre, comme j'avais dit, je le répète encore, les villageois, mon village, les lieux où j'ai joué comme un enfant. C'est tout simplement nostalgique, tu repars. Après d'autres villages et la région, je photographiais la région. Et à partir de là, il y a une histoire qui s'est imposée, qui s'impose en toi.
Et où est-ce qu'elle te mène maintenant, cette histoire? Où est-ce que tu en es dans ce récit de la culture berbère?
Bon, je ne suis pas un expert, je ne suis rien, juste par rapport à ce que j'ai vu. Il y a un certain espoir, oui. Parce qu'il y a des initiatives personnelles, des gens, soit intellectuels ou pas, artistes ou pas, qui militent, qui travaillent encore pour cette culture. On peut trouver un informaticien, par exemple, j'ai donné tout le temps comme exemple, il a fait le Mozilla en Kabyle, comme moteur de recherche, par exemple, parce que nous sommes dans un monde d'Internet. Si on n'existe pas aujourd'hui sur Internet, on n'existe plus presque, on verra dans le futur. Donc il y a des écrivains qui écrivent en kabyle ou en berbère, il y a des linguistes qui font des dictionnaires, il y a des groupes de linguistes qui cherchent, plutôt qui essayent à travailler sur cette langue. Donc là, c'est l'espoir. En fait, là, je le rencontre pendant mes voyages, pendant mes recherches. Donc là, il y a un certain espoir. Il y a encore un autre espoir en Libye. Si on a vu, on a suivi un petit peu l'actualité en Libye. On n'en parle jamais des Berbères et qu'elles représentent quand même. Mais on n'en parle pas, on parle de groupes. Voilà. Et que la solution en Libye, ça peut jamais, il ne pourra jamais y avoir de la paix si on oublie les Berbères. Donc la Libye, je le vois, il y a une renaissance des Berbères aussi. Parce qu'ils ont leur armée, ils ont les armes, ils ont leur territoire. Et récemment, ils ont imposé leur langue berbère dans leur territoire. Malgré le gouvernement et le parlement n'a pas voté pour cette langue. Malgré, c'était pareil, c'était les mêmes méthodes que Kadhafi. Mais eux, ils l'ont imposé aujourd'hui. Malgré la communauté internationale, elle fait semblant de ne pas voir, de ne rien voir. Après, nous raconte qu'il n'y a que Daesh, il n'y a que... Non, il y a d'autres choses. Donc voilà, donc ces choses-là me donnent un petit peu espoir. Mais quand je vois Siwa en Égypte, ils sont en train de disparaître. C'est une question de temps. Siwa, c'est une oasis à côté, à la frontière libyenne en Égypte. C'est les derniers berbères en Égypte, en fait. Donc là, ils sont en train de disparaître. Il n'y a aucune initiative, il n'y a aucun projet sur leur culture, sur leur langue. C'est une question de temps. Et ils le parlent aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 habitants là-bas. Et voilà, si on voit les Touaregs, comment ils sont réduits aussi. On ne peut pas fermer les yeux. Ils sont en train de disparaître. Et c'est très violent de voir sa culture comme ça. En train de mourir, en train de partir à petit feu, à mourir. C'est très très violent. Donc, en fait, je suis arrivé en Algérie, au Maroc, c'est là où il y a plus de berbères. Ils sont en train de combattre. C'est un combat très long. Je ne sais pas, ça va être très dur de parler sur le futur. Mais voilà à peu près où je suis aujourd'hui avec... Donc il y a différentes analyses, il y a différentes rencontres en fait, ce que j'ai vu. Voilà, c'est à peu près ça, entre la disparition et la résistance.
Saïd Saadi, bonjour.
Bonjour.
Pour la cause berbère, il y a eu des avancées depuis 30 ans. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas ?
Il y a eu des avancées, mais je ne suis pas satisfait. Il y a aujourd'hui la langue amazigh qui est inscrite dans la Constitution en tant que langue nationale, mais elle n'est pas reconnue comme langue officielle. C'est-à-dire qu'au-delà de la symbolique, l'État n'est absolument pas obligé de prendre en charge, sur le plan logistique, pédagogique, éducationnel, une langue qui est quand même parlée encore aujourd'hui par le tiers de la population algérienne.
Quand tu penses à ton travail de photographe, est-ce qu'il y a une photo qui te vient à l'esprit dont tu pourrais ou voudrais parler
Peut-être les meilleures photos, je ne les ai pas faites. Mais j'essaie de raconter une image que je n'ai jamais faite. Une fois, j'étais en nord du Mali avec les rebelles du MNLA. C'était très tôt le matin, on a fait une pause, on voulait partir vers Kidal. Et là-bas, c'est un désert. Comme un océan, il n'y a pas d'une, de sable, il n'y a rien, c'est vraiment comme un océan. Et on a fait notre pause vers 6h30, 7h30 du matin déjà pour prendre, c'est un rituel, le thé là-bas. Il y avait au moins une vingtaine de rebelles, une vingtaine de personnes, un peu jeunes, moins jeunes. Et pendant notre pause, on voit de loin une voiture qui vient. Et on ne savait pas si c'était l'armée malienne ou bien les islamistes d'Al-Qaïda ou d'autres groupes. Donc on devrait se séparer, c'est un désert, il n'y a même pas où on va se cacher, il y a des toutes petites plantes. Quand la voiture se rapproche, eux ils sont prêts voilà, à tirer, parce qu'ils sont contre, ils ont l'ennemi, c'est l'armée malienne et les islamistes en même temps. Et finalement, j'ai eu une chance, c'était des civils. Donc il n'y a rien qui s'est passé parce que j'avais la trouille, je ne fais pas la guerre. Parce que j'ai la trouille, je déteste carrément. Et il y avait leur chef qui est venu, bon, comme un chef en fait, il est venu, il me dit « Hey Ferhat, t'as peur ?» Je dis « Oui, bien sûr que j'ai peur, mais du moment que je suis venu chez vous, je sais que c'est la guerre, bon, voilà, on peut mourir à tout moment. » Et il y a des situations aussi, le courage dépasse, en fait, il y a le courage, on trouve un petit peu le courage qui dépasse la peur. Il me dit « Ne t'inquiète, si... on doit tous mourir, tu seras le dernier qui va mourir. » J'étais très ému. 20 personnes qui meurent pour toi, tu te rends compte? Et ça m'a travaillé tout le trajet, toute la nuit. Le lendemain, je me réveille, je dis « Mais attends, mais tu te rends compte ce que tu m'as dit hier ?» Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que tu es notre invité. » Et ça, c'est une valeur berbère. Et c'est pas un jeu, parce que c'est pas que je suis berbère. Tu pars autant que français, tu pars autant que chinois, ils t'accueillent vraiment comme ça. Et si cette culture, voilà, pour moi, si ça disparaît, c'est un trésor qui disparaisse. Voilà.
C'était l'Atelier des médias, une émission de RFI proposée par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Léo Caravagna, Camille Deloche, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Merci au Festival Visa pour l'Image, au service de communication de RFI et à notre invité Ferhat Bouda. Pour en savoir plus sur son travail, vous pouvez bien sûr visiter son site personnel bouda-photographe.com. Salut à toutes et à tous.